Donc, nous avions pris l'image de l'Empire romain, comme quoi le péché régnait partout, l'Empire romain dominait tout le monde occidental, le bassin méditerranéen, toute la civilisation connue de l'époque. Dans Astérix et Obélix, dans chaque pays dans lequel ils vont, il y a cette bannière romaine, des légions romaines qui est plantée dans le... Voilà, c'est un territoire romain. Et bien, on avait pris cette image, c'est un territoire de l'Empire du péché. Et le problème, c'est que la loi de Dieu est contre le péché. Il y a la loi qui est écrite dans le cœur de chaque homme, qui a une conscience innée de ce que Dieu attend de lui, de ce qu'il existe. Et il y a la loi qui a été écrite et donnée à son peuple, qui est plus précise pour mieux le faire connaître. Et on avait vu, l'apôtre Paul avait conclu que tous les hommes sont sous l'empire du péché. Il n'y a pas de poche de résistance, il n'y a pas de petit endroit qui serait libre. Non, tous les hommes sont sous l'empire du péché. Mais, et donc ils sont tous quelque part sous la condamnation de Dieu, parce que Dieu ne peut pas tolérer le péché. Heureusement, on avait vu après la magnifique, j'avais appelé ça la magnifique justification par la foi. Jésus-Christ est venu, il est venu prendre la condamnation. Nous étions sous la condamnation et il est venu prendre nos fautes, même si c'était dans le passé que nous, on n'était pas encore nés. Pour Dieu, rien n'est impossible. Et donc Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, s'est chargé de nos fautes, de nos péchés. Il a pris cette juste condamnation quand on fait des choses mauvaises. Ça doit être sanctionné, on le sait. C'est comme ça que ça fonctionne. Et Jésus a pris cette sanction sur lui à la croix de Golgotha, à notre place. Paul a après parlé de l'exemple de foi d'Abraham. Pourquoi c'est la justification par la foi? Mais parce qu'Abraham, il est appelé le père des croyants, il avait cru ce que Dieu dit. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que l'on croit ce message de la mort, du sens de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus, il y a maintenant 2000 ans pour nous. Il avait pris aussi l'exemple de David et de la joie du pardon. David était un homme qui avait fait de grosses erreurs, de grosses fautes. C'était impardonnable, on dirait nous. Comment il a pu faire comme ça? C'est impardonnable, c'est scandaleux. Et pourtant, Dieu l'avait pardonné. Et c'est un exemple pour nous également de la grâce et de la miséricorde de Dieu, un Dieu qui pardonne sur la base de la foi. On avait vu également que, à travers cette justification, nous trouvions la paix avec Dieu également. C'était toute une partie de l'explication. Et pouvions avoir également l'assurance que non seulement nous sommes pardonnés aujourd'hui, que nous sommes avec la paix avec Dieu, mais que cela durera jusque dans l'éternité. Cela durera jusque dans l'éternité, jusque dans le ciel, et nous serons le chrétien, le croyant, est préservé du jugement à venir, qui va venir sur le monde à la fin des temps. Ensuite, deuxième partie du chapitre 5, Paul fait la comparaison entre Adam et Jésus-Christ. On a tous en Adam reçu cette nature pécheresse. On n'a plus reçu la capacité ou la facilité on est des pécheurs et on pêche parce qu'on est des pécheurs et on est des pécheurs parce qu'on est des fils de Adam qui est un pécheur en quelque sorte. Il nous a transmis ce trait de caractère, si on peut dire comme ça. Et donc le fruit du péché, le résultat du péché, c'est la mort, qui se voit et qui est présente partout. Tous les hommes meurent, tous les hommes sont pécheurs, explique l'apôtre. Et donc, avec la loi, ça s'amplifie encore, puisque la loi met encore plus en évidence le fait que les hommes sont pécheurs. Mais Jésus-Christ est venu, et là, donc, en Jésus-Christ, est une nouvelle humanité qui commence, comme Adam. Et quand on est en Adam, on est en pécheur. Et quand on est en Jésus-Christ, on est sauvé. Hein, on est fait partie d'une nouvelle humanité. C'est ce qu'il a expliqué. Et donc, j'avais pris l'image de cette voiture. Hein, il y a un chauffeur qui est Adam et nous, on est derrière. Et tout ce que le chef de file, Adam, fait, il tombe dans un ravin, par exemple, ou toute la voiture avec lui tombe dans le ravin, parce qu'ils sont tous à l'arrière du chef de file. Et Jésus-Christ est un nouveau chef de file que Dieu a donné. Et en lui, tout est pour la vie. Hein, c'est la, en Adam, c'est la mort, et en Jésus-Christ, c'est la vie. Voilà un petit peu où on en était resté la dernière fois. Alors maintenant, la suite. Qu'est-ce qui se passe ? D'accord, on a nos péchés qui sont pardonnés. Ah oui, il reste une petite image encore, celle de la grâce. La grâce surabondante, comme un fleuve immense, et la paix de Dieu. Et on avait chanté également, de la croix, la grâce coule comme un fleuve, constamment. Là où le péché abonde, explique, a expliqué l'apôtre Paul, la grâce surabonde, elle est surabondante. Et on en était resté là, et nous on est dans l'échelle du temps, on est quelque part par là, et on est dans, avec cette nature qui vient de Adam, et si on est croyant, eh bien on reçoit aussi la nature de Jésus-Christ. On va un petit peu plus en parler aujourd'hui, Dieu voulant. Que faire maintenant ? Ah ben, l'idée, c'est quand même, si on est sous l'empire du péché, c'est de sortir de là, hein, de partir de là. Hein, de pas rester sous la domination du péché. Et vous savez, ceux qui ont connu le bloc soviétique à l'époque, avant la chute du mur de Berlin, il y avait le bloc soviétique, tout ce groupe de nations communistes. Et on pouvait, quand on était dans le groupe communiste, ben, il était impossible d'en sortir. On était là. Et on était communiste, on naissait dans l'empire, dans le bloc soviétique, et donc on pouvait aller d'un pays à l'autre, tant qu'on restait dans le bloc soviétique, il n'y avait pas de problème, mais il était impossible de passer de l'Est à l'Ouest, comme on disait, hein, de rejoindre les démocraties de l'Ouest. Et il y avait le grand mur de Berlin qui en était le symbole. Pour nous, aujourd'hui, par rapport au péché, ça peut peut-être ressembler aussi à cette situation. Voilà, on peut rêver du ciel, on peut faire des plans d'évasion, mais la réalité est là, finalement, on pêche toujours et on est toujours coincé dans cet empire. Mais est-ce vrai ? Est-ce vraiment une fatalité ? Est-ce qu'il n'y a pas une porte de sortie ? Est-ce qu'on ne peut pas quitter cet empire du péché, cette domination du péché ? Est-ce qu'on ne peut vraiment pas la quitter ? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va lire le texte maintenant. Je vais lire dans la Bible Second, chapitre 6, verset 1. « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est déclaré libre du péché. Libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11.
Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas sur vos corps mortels, n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc le titre de message ce matin sera « Mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ ». Alors j'ai un peu décoré le texte pour nous, un peu séparé en paragraphes, et on voit ainsi facilement apparaître plusieurs parties. Au début, versets 1 et 2, en quelque sorte, Paul y commence par une accroche, quelque chose pour nous titiller là. Et il écrit ceci. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là ! On pourrait dire nada, niet. Hein not all. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Alors, les détracteurs de la justification par la foi diront peut-être, c'est trop facile. Voilà. Alors, on fait ce qu'on veut, on pêche et puis on est pardonné. Et puis toujours Dieu pardonne parce que sa grâce surabondante est capable de pardonner tous les péchés. Alors, voilà. Qu'est-ce qui empêche de pécher ou pourquoi on ne pécherait pas? Pas du tout. D'une part, il y a ce que Jésus Christ a fait à la croix. Il a été livré pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Et la semaine dernière, on célébrait la Pâque, la résurrection de Jésus Christ, qui est quelque chose de certain. C'est une certitude. Les apôtres ont touché c'est la marque des clous. Ils ont mis le doigt dessus. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. C'est ce qu'ils ont vu, expérimenté et diffusé dans le monde entier. Jésus-Christ est ressuscité. S'il y a une chose certaine aujourd'hui, on peut se poser bien des questions. On peut être dubitatif devant la façon dont le monde fonctionne aujourd'hui. On ne comprend pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que Jésus-Christ est ressuscité, c'est factuel, c'est objectif. Et d'autre part, le Saint-Esprit a été donné aux croyants, on l'a lu au chapitre 5, et il y a une application de la justification sur nous-mêmes qui a été réalisée. Cela, c'est plus subjectif. Il n'y a pas de preuves réelles, tangibles, mais il y a quand même de réels changements dans la vie, dans le cœur et dans les pensées des croyants. Et c'est ce que Paul va expliquer dans les chapitres qui suivent, dans ce chapitre en particulier. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Alors là, ensuite, suit trois enseignements fondamentaux. Le premier, il commence ainsi. Alors vous avez vu, il met chaque fois le pronom « nous », je l'ai mis en couleur marron, parce qu'il parle de nous, et tous les verbes là de cette première partie de son enseignement, qui est sur votre droite, a des verbes autant indicatifs. Ce sont des choses qui sont indicatives, hein, des choses que Dieu... que Paul expose et qui doivent simplement être reçus et être crus, parce que Paul est apôtre de Jésus. Alors au verset 3 à 4, il commence ainsi. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui, par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Quelques remarques ici. Vous avez remarqué, Paul écrit baptisé en Jésus-Christ. Il y a ce petit mot en qui est dans le grec et le français, c'est le même sens. Hein, c'est, souvent, c'est, on peut le remplacer par le mot dans. Hein, le sens en grec, en français, dans le grec. Hein. Paul utilise aussi le mot baptême. Alors nous, là, on a une petite difficulté, par contre, parce que le mot baptême était un mot du langage courant à ce moment-là. Maintenant, ça a une signification rattachée au christianisme. Mais à l'époque, c'était un mot du langage courant. Et si vous aviez... Bon, il n'y avait pas de bocal de cornichons à l'époque, mais la recette pour les cornichons, c'était de prendre les cornichons, pour faire les cornichons au vinaigre. On prenait les cornichons, on les trempait, on les ébouillantait, et après... On les baptisait dans le vinaigre. On baptisait les cornichons dans le vinaigre. Ça aurait été écrit comme ça. Et donc, on peut comprendre dans cet enseignement qu'au moment de la conversion, donc, nous avons été plongés en Jésus-Christ. Plongés en Jésus-Christ. Et nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Hein? On retrouve peut-être cette idée du chef de file et d'être dans sa voiture. Hein? On peut faire une parenthèse également, parce qu'on dit que l'on, à sa conversion, on reçoit Jésus-Christ. En fait, on reçoit l'Esprit de Christ qui est en nous. Et donc, à la fois, Jésus-Christ est en nous et à la fois, nous sommes en lui. Hein? C'est très, très beau de réaliser cela. Alors, bien sûr, ça se réfère, on peut penser à la cérémonie des baptêmes, mais quand on baptise, donc, on baptise au nom de Jésus-Christ. Hein? Matthieu 28, 19. Et le baptême, avec son témoignage, sa déclaration de foi, son passage dans les eaux, exprime son adhésion à être mort, enseveli et ressuscité avec Christ. Oui, moi, je veux ça pour moi. Paul écrit ensuite, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Afin que nous marchions en nouveauté de vie. Et l'objectif, donc, n'est pas de retomber dans le péché. Paul a déjà présenté un premier argument ici, mais ce n'est pas de tomber dans le péché, mais de marcher dans une vie nouvelle, c'est-à-dire dans notre quotidien, vivre une vie qui est différente de celle que l'on pouvait connaître avant. Une vie nouvelle, dans le quotidien. Le baptême en Jésus-Christ. Donc. Verset 5, ensuite. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est déclaré libre du péché. Et Paul avance un petit peu plus loin, rajoute une couche, on pourrait dire, où il rajoute un autre enseignement un petit peu plus précis par rapport à ce qu'il vient de dire. Il approfondit son enseignement. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Et là, c'est l'idée de deux plantes qui poussent ensemble et qui sont, je ne sais pas, liées l'une à l'autre, ce qui fait que c'est impossible de les séparer. Hein? Et donc, une plante meurt, l'autre plante meurt aussi. Hein. C'est les théologiens, ils parlent de l'union avec Christ. Et on a cette image de l'union avec Christ. Et certaines Bibles dont le traduisent comme cela, ce passage. L'union avec Jésus-Christ. Alors, les questions d'un vieil homme également. Nous avons... par la conformité à sa mort, donc, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Si on est lié aussi dans la mort, on est lié aussi avec lui dans la résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, alors, c'est qui le vieil homme, là? Le vieil homme, c'est pas le vieillard, hein. Le vieil homme, c'est le premier qui est né. On a vu, d'abord, on naît en Adam, et après, on peut naître à la vie nouvelle, à nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est vieux, qu'elle appelle le vieux. Il est ancien et il n'a pas d'avenir. Le vieil homme, donc, je le rappelais tout à l'heure, a reçu le patrimoine génétique de Adam, mais pas seulement, il a reçu aussi son caractère. Vous savez que des fois, les enfants ressemblent aux parents. Ça passe pas par les... par les c'est pas écrit dans les gènes le caractère, mais il n'empêche qu'on hérite quand même du caractère de nos parents, et donc on est pécheur parce que Adam était pécheur et on pêche comme Adam. Ça, c'est le vieil homme. Alors, comment on quitte, comment on se sort de tout cela, hein? L'apôtre le dit ici, il parle de notre propre mort. Afin que le corps du péché, le vieil homme, soit réduit à l'impuissance, donc, il faut passer par la mort. Et donc, comme Jésus-Christ est passé par la mort et comme nous sommes liés avec lui, en union avec lui, le croyant, eh bien, lui aussi, il passe par la mort. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, écrit l'apôtre Paul. Celui qui est mort est déclaré libre du péché. J'ai pris l'image du bloc soviétique tout à l'heure. Et donc, les habitants du bloc soviétique, ben, il y avait, quand ils étaient morts, eh ben, c'était fini. On ne demande plus rien à un mort. Hein. C'est la fin de payer les impôts, c'est la fin pour un mort de se faire flasher au radar. Hein. C'est la fin des poursuites, c'est la fin des interdictions. Et si on imaginait un habitant de l'URSS qui pouvait brandir son certificat de décès, ah ben, il n'existe plus pour l'administration, il n'existe plus pour les autorités. Mais non, t'es mort, t'existes plus. Fais ce que tu veux, va où tu veux, pour nous, t'existes plus. Et c'est un petit peu l'image qu'on a. Et donc, on reçoit donc en Christ une nouvelle identité, un nouveau passeport. D'un côté, on est mort, le vieil homme, et de l'autre, en Christ, on a un nouveau passeport. Et ce passeport-là, c'est le passeport vers la liberté. Et là, rien ne nous empêche plus de traverser cet grand empire du péché et d'en sortir, hein, et de sortir de là. Alors, peut-être il y a un problème ici, est-ce qu'on ne veut plus être esclave du péché sous la domination du péché? Comment vous le sentez ça? Est-ce que vous avez envie de vous sortir des entraves du péché ou pas? Oui. Amen, oui. Oui, on en a envie. Oui, 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 oui. Oui, on peut le dire, oui. On va maintenant écouter un chant gospel qui est très connu, qui s'appelle Freedom, et qui parle du temps de l'esclavage de noirs américains. Ça a été écrit du temps de la ségrégation. Et ils avaient la perspective que, ok, dans leur tête, ils étaient libres parce qu'ils savaient qu'un jour ils mourraient. Et le jour où ils seraient morts, ils partiraient. Ils partiraient dans la maison. Dans leur patrie céleste, ils partiraient rejoindre Jésus-Christ. Donc, ce n'était pas des esclaves, hein, parce qu'ils allaient mourir. Et nous, on peut, pendant ce chant, je vous invite à réfléchir, mais quel est mon problème, quelle est mon entrave, quel est le péché qui me tient le plus et qui m'embête le plus et qui me donne et qui me tire toujours vers le bas, contre lequel j'échoue si souvent. Et on va pouvoir mettre le nom, il y en a un, il y en a deux, peut-être, mais c'est bien de l'identifier, et identifiez-le, hein, pendant qu'on va écouter le chant. Alors il y aura les paroles traduites.
Oh freedom, oh freedom. Before I'd be a slave, I'd be buried in my grave, and go home to my Lord, and be free. No more crying, no more crying. Before I'd be a slave, I'd be buried in my grave, and go home to my Lord, and be free. shooting, no more shooting over me. But before I be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord, to my Lord, to my Lord.
Celui qui est mort est déclaré libre du péché. Il est déclaré libre du péché. Et sur le etc., là, vous pouvez mettre votre problème. Mettez-le. Mettez-le. Et vous pouvez, avec foi, dire Jésus-Christ, je suis parti avec lui, je suis mort avec lui, et c'est fini de tout ça. C'est fini. Je suis ressuscité avec lui et c'est une nouvelle vie pour moi. Hein? Ce qui était une perspective à venir pour les esclaves nord-américains, ils voyaient leur mort comme la délivrance qui allait venir. Cette délivrance pour nous est passée. On peut vivre maintenant dans cette liberté que Jésus-Christ nous a acquise. Et voilà, certificat, le certificat de décès. Je suis mort, je suis mort. Poursuivons. Versets 8 et 9. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qui vit. Et toujours l'apôtre approfondit son enseignement. Il ajoute, il va encore un petit peu plus loin ici. On trouve deux informations. Il dit, Christ ressuscité des morts ne meurt plus. C'est-à-dire il n'y a pas de retour en arrière. La chose est définitive. La mort, dans la résurrection de Christ, a perdu son aiguillon. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et si le problème du péché est réglé, la mort n'a plus de pouvoir et puis il n'y a pas de retour en arrière. Hein? Une fois pour toutes, il est mort. On a cette image des enfants d'Israël qui quittaient l'Égypte. Ils sont passés à travers la mer Rouge qui s'est ouverte pour eux. Et quand ils se sont retournés, derrière eux, ils ont vu les vagues reprendre leur place et on ne pouvait plus les poursuivre. C'était fini de l'Égypte et eux-mêmes ne pouvaient plus revenir en arrière. La mer s'était refermée et les séparait définitivement. Une fois pour toutes, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et ensuite, il dit, il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, ce qu'on a appris. Il répète, et on a besoin d'entendre et de réentendre ces choses. Et ensuite, il ajoute, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. C'est pour Dieu qu'il vit. Jésus-Christ ressuscité vit pour Dieu, il ne vit plus pour lui-même. C'est le gros message qu'on a là. Et donc, si on est en Christ ressuscité, eh ben nous aussi, il y a un changement pour nous. On ne va plus vivre pour nous-mêmes. L'homme nouveau est radicalement différent du vieil homme en Adam. Et donc, on comprend mieux l'expression de Paul au début qui dit, répondait, « Mais nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» C'est différent. Les choses ont changé. Les choses ont changé en ressuscitant avec Christ. Ah ben, la vie, c'est une vie pour Dieu, vivre pour lui. Et là, on a fini pour cette partie d'enseignement. Est-ce que j'ai fini dans mes notes? Oui. Et donc, l'apôtre, maintenant, va nous donner des applications. Et là, c'est le « vous ». Il va s'adresser à nous, « vous, vous, vous ». Et là, c'est des verbes à l'impératif. C'est facile à reconnaître. Hein. On change, on passe à vos applications pratiques. Donc, il suit la logique. Hein. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous, c'est le mot « imputez-vous » qu'on trouvait partout au chapitre 4. Hein. La foi, la justice nous a été imputée à cause de notre foi. Et là, nous avons un travail à faire. C'est qu'il nous faut imputer cette mort, cette résurrection de Jésus-Christ à notre cas, et nous regarder comme morts au péché nous-mêmes. C'est la façon dont on doit se considérer. Hein. On est toujours dans la foi, on a toujours un prolongement de la foi. Alors, c'est finalement pas un enseignement très compliqué que l'apôtre propose. C'est toujours sur le principe de la foi, et voilà. On est mort avec Christ, on est mort au péché avec Christ. Donc, on n'a plus le péché n'a plus de pouvoir sur nous, il n'a plus d'autorité sur nous. Maintenant, c'est à nous. On peut se lever, on prend notre baluchon et puis on quitte l'empire du péché. Hein. On a dans la main le certificat de décès et dans l'autre, on a le nouveau passeport de notre nouvelle identité et rien, personne ne peut nous en empêcher. Ça, c'est le programme, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, n'obéissez pas à ses convoitises. La conséquence de tout ça, bien sûr, c'est que le péché ne doit pas avoir le dernier mot. Alors, notre point faible, là, c'est notre vieux corps qui est toujours hérité de Adam, hein, avec le vieil ADN. Vous savez, il y a des routes qui se font dans le cerveau, il paraît. C'est-à-dire quand on prend des habitudes, c'est le cerveau, eh bien, il connaît des chemins et dans lesquels il passe plutôt que par d'autres. Et on prend l'illustration du jet lag. Si vous avez voyagé, que vous avez été complètement aux Amériques ou en Asie, eh bien, on subit le jet lag. C'est-à-dire quand on arrive là-bas, eh bien, il fait beau, tout ça, les gens se lèvent le matin et puis nous on a sommeil parce que notre corps est habitué à dormir à cette heure-là. Et au milieu de la nuit, on se réveille. On est tout guilleré, parce que notre corps était bien. Pour lui, c'est le matin. Et il va mettre du temps à s'habituer. Mais la réalité, c'est que nous sommes bien, si nous avons été aux États-Unis. Hein, ça, c'est la réalité. Alors, il ne faut pas écouter ses désirs. Hein. N'obéissez pas à ses convoitises, ses désirs. Je vais donner un exemple là. Il y a donc cet ancien formatage en Adam qui reste. Par exemple, les hommes ne peuvent pas s'empêcher d'être attirés par une belle femme. Ils sont faibles, c'est dans leur nature. Et c'est comme ça et on n'y peut rien changer. Ben, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Ces choses-là peuvent changer. Et si vous n'en êtes pas convaincu, demandez à Job qui vous explique. Lisez le chapitre 31 et il le fera très bien pour nous. Donc, il n'y a pas de fatalité qui existe. Hein. Il ne faut pas considérer que c'est une chose impossible. Non. 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 C'est de mensonge que de croire que l'on ne peut pas changer, qu'il y a une sorte de fatalité sur nous en Jésus-Christ. Tout cela est terminé. Offrir ses membres à Dieu, verset 13. Ne vous livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Il y a le mot ici « livrer », c'est pas le mot de la livraison, comme Judas a livré, pieds et poings liés, Jésus au chef qui voulait le faire mourir. Hein. C'est pas ce mot, c'est pas le même mot. Il n'est pas toujours traduit, comme ça. C'est plutôt le sens de se mettre à portée de main. Il ne faut pas se mettre à portée de main du péché. Hein. Lorsque les esclaves noirs américains ont été affranchis, eh ben, il y avait des choses qu'il fallait vraiment qu'ils fassent attention, c'est de ne pas croiser leur ancien maître. Parce que leur ancien maître, quand il le croisait, « Toi, viens ici, fais-moi ça. »
Et ils étaient tellement habitués à obéir à ce maître-là que, voilà, ils le faisaient. Et c'était très difficile pour eux de changer parce qu'ils avaient fait ça toute leur vie. Et parce que cette voix qu'ils entendaient, c'était la, il y avait voilà, c'était l'habitude qu'ils avaient prise. Alors, le mieux c'était de ne pas le rencontrer, hein. Surtout ne pas rencontrer son ancien maître. Et donc, il y a l'idée de pas se mettre son corps, ses membres, à portée de main du péché. Hein. Il est question des instruments de justice, on pourrait les traduire par des armes, ces instruments-là. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des centaines de milliers d'ouvriers français qui sont allés travailler obligatoire en Allemagne. Et là, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils travaillaient dans des usines pour fabriquer quoi? Eh bien, pour fabriquer du matériel pour soutenir l'effort de guerre. Et du matériel et des bombes et des instruments de guerre. Et ils étaient là obligés de les fabriquer. Et ces bombes-là allaient partir, décoller ces avions et allaient lâcher les bombes sur leur propre famille. Sur leur propre famille. Alors, c'est pas une situation tenable. Et donc là, l'idée que Paul nous propose, plutôt que de se mettre à portée du péché, de se mettre à portée de Dieu. C'est de passer d'une situation défensive où on est là, on va se craindre et avoir la peur du péché, dans une situation offensive, de se mettre à côté de Dieu. Et de là, nos membres, qui avaient trop l'habitude de pécher, eh bien, ils vont être utilisés comme des armes, non plus comme des instruments de justice, des armes de justice dans la main de Dieu. Hein. On recycle notre corps, en quelque sorte. Hein. On lui fait faire autre chose de différent. C'est une sorte de passer de la défensive à l'offensive. Hein. Et si on vit pour Dieu, c'est normal que nos membres soient mis à la disposition de Dieu, pour le service de Dieu. Hein. Et c'est l'idée toujours, c'est l'idée de se mettre à la portée de main de Dieu. Parfois, on se trouve dans un endroit, voilà, il y a quelqu'un qui travaille dans un coin, là. Il fait, je sais pas, il fait un truc, on est là, il y a tout un groupe de personnes. Et puis, celui-là qui travaille là-bas ou là, on l'évite, on se tient loin, parce que si on se met à côté, c'est sûr, il va nous demander, hey, viens m'aider, je fais ça, viens m'aider. Alors, si on n'est pas à portée, on est tranquille, on aura bonne conscience, il viendra pas nous demander de l'aide, hein. Ben c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut se mettre à portée de la main de Dieu. Et le Seigneur, qui travaille dans le monde, il va nous trouver quelque chose à faire. Il va nous trouver quelque chose à faire. Si on se met à sa portée, si on se met là, proche, à sa portée de sa main, plutôt qu'à la portée de la main du péché, se mettre à la portée de la main de Dieu, et il va nous lui trouver des façons de le servir. Vous direz peut-être, mais c'est impossible, moi, je suis faible, je suis pécheur, je le sais. Comment je pourrais être digne de servir Dieu de cette façon-là? Comment moi je vais me mettre à son service? C'est réservé pour les gens qui sont très spirituels, c'est pas réservé pour moi. Eh bien non, ce n'est pas du tout ce qu'enseigne l'apôtre Paul, bien au contraire. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, il nous rassure ici. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce qui surabonde. Hein? Alors, bien au contraire, cela va marcher. En même temps, on va servir Dieu, et en même temps, on va avoir la victoire sur le péché. Hein? Donc, résumer le message de ce matin, hein? C'est ce verset-là, « Mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Toujours avoir sur soi son acte de décès. Est-ce toujours avoir sur soi son passeport, sa nouvelle identité que Dieu nous a donnée, et conformer nos vies à cette réalité-là, et puis vivre pour Dieu en Jésus-Christ. Celui qui est ressuscité, il ne vit plus pour lui-même, et nous ne sommes plus appelés à vivre pour nous-mêmes, nous sommes appelés à vivre pour Dieu, et donc à lui offrir nos mains, hein, à se mettre à portée de sa main pour le servir. Voilà, le message de ce matin est terminé. Alors peut-être il y a d'autres questions que vous avez, peut-être il y a d'autres soucis que vous rencontrez, peut-être vous êtes frustré ce matin, « Ah, j'ai pas trouvé encore là la réponse à mon problème par rapport au péché, par rapport à quitter le péché, ne plus vivre sous son emprise, sous sa domination, ben, nous sommes qu'au début du chapitre 6. Et nous allons avoir d'autres enseignements jusqu'à la fin du chapitre 7 pour nous, de la part de l'apôtre. Donc patience, mais déjà, là, on a quelque chose qui nous servira pour toute notre vie chrétienne et dans toutes les situations. Par la foi. C'est pas compliqué, c'est par la foi. Alors, amen. Seigneur, notre Père, merci parce que tu es bon. C'est toi qui connais la dureté de l'esclavage du péché dans nos vies. Son emprise tenace. Combien nous sommes tout imbibés des fois nous faisons des choses sans nous rendre compte, Seigneur. Merci pour la possibilité d'avoir du changement. Merci pour l'Esprit Saint que tu nous as donné. Merci parce que nous sommes en toi et tu es en nous. Et que ça change tout. Merci Seigneur parce que nous pouvons dire non, un cadavre ne réagit pas. Je ne réagis pas à la sollicitation du péché parce que je suis mort. Merci Seigneur de cette vie nouvelle, de la possibilité de te servir, nous qui sommes des descendants de Adam, de te servir toi en Jésus-Christ, que tu nous acceptes à ton service, que tu vas nous pouvoir nous rendre utiles et travailler. Et nous ne travaillerons plus à faire du mal, nous allons travailler à faire du bien, Seigneur, et produire de belles choses, de beaux fruits, plutôt que de produire des bombes ou des choses qui sont des instruments de destruction. Nous allons produire des choses qui vont et concourent à la vie et non à la mort. Merci, Seigneur, de cela. Par Jésus. Amen.